Un deuxième terroriste a été arrêté par les Ashtal Shabi dans le cadre de la deuxième phase de l'opération des héros de la seconde victoire en Irak. Un drone de la coalition saoudienne a été abattu par la défense aérienne yéménite dans la ville frontalière de Raza, dans la province Sada, et les pays du groupe OPEP+ sont parvenus à un accord sur la baisse de la production de pétrole. C'était le titre. En voici le journal. En Irak, un deuxième terroriste dangereux a été arrêté par les Ashtal Shabi. Les combattants des Ashtal Shabi ont arrêté vendredi 10 avril un terroriste Daesh dans le cadre de la deuxième phase de l'opération des héros de la seconde victoire. Le terroriste a été arrêté près de la frontière de l'Irak avec la Jordanie et l'Arabie saoudite. Selon le commandant des Ashtal Shabi pour les opérations à Al-Anbar, Hassem Mosley, le terroriste a été arrêté à l'aide des renseignements exacts que les combattants des Ashtal avaient collectés. Il disposait des armes, des munitions et d'un réseau Internet satellitaire, a ajouté Hassem Mosley. Jeudi 9 avril, un premier terroriste Daesh a été arrêté par les combattants des Ashtal. Appuyé par l'armée irakienne, les Ashtal Shabi ont lancé jeudi 9 avril au matin une opération de grande envergure afin de sécuriser les frontières de l'ouest et du sud-ouest de la province d'Al-Anbar, surtout des régions désertiques. Les 13e, 17e, 18e, 19e brigades des Ashtal, ainsi que 4 unités de l'armée et des forces des unités de renseignement et de génie sont impliquées dans l'opération des héros de la seconde victoire qui bénéficie d'une couverture aérienne de l'aviation irakienne. Cette nouvelle opération militaire se déroule près des frontières avec la Syrie et la Jordanie et vise surtout les cellules dormantes de Daesh. Soutenus par les Américains, les terroristes Daesh tentent de déstabiliser l'ouest de la province d'Al-Anbar et la route stratégique reliant Al-Walid à Ramadi. Les Américains ont récemment transféré un certain nombre de commandants de Daesh à la province d'Al-Anbar en provenance de la province syrienne de Asaké, ce qui renforce l'hypothèse qui suggère un scénario US destiné à déstabiliser l'ouest de la province d'Al-Anbar. Il se peut que les Américains appuient l'opération de la déstabilisation d'Al-Anbar depuis la région d'Al-Tanf, qu'ils ont occupée dans le sud de la province de Homs, en Syrie, non loin de la frontière de la Jordanie, car il est très facile de prêter main forte aux terroristes Daesh depuis les déserts de cette région. Des agissements de Daesh ont été récemment repérés dans plusieurs localités de la province d'Al-Anbar, dont Al-Ratba et Adissa, ainsi que les déserts du sud et du centre, le sud du lac Tartar et les régions proches de la frontière de la province de Najaf, d'où la nouvelle opération des Ashtal Shabi pour sécuriser les dites régions. Avec une superficie de 135 500 km², Al-Anbar est la plus grande province de l'Irak qui partage ses frontières avec la Jordanie, la Syrie et l'Arabie saoudite. Au Yémen, des sources militaires ont fait part de la destruction d'un drone de la coalition saoudienne dans la ville frontalière de Raza, dans la province de Sada, au nord-ouest du pays. Vendredi soir, la défense aérienne de l'armée des comités populaires à Sarala a abattu un drone de la coalition saoudienne dans la ville frontalière de Raza, dans la province de Sada. Selon une source militaire yéménite, le drone a été pris pour cible alors qu'il menait une mission d'espionnage au-dessus de la ville de Raza. Le drone espion a été pris pour cible alors que la coalition saoudienne a récemment prétendu avoir réclamé un cessez-le-feu de 2 semaines au Yémen. Les forces d'occupation turques ont repris leur attaque contre les civils et leurs propriétés ainsi que contre les propriétés publiques dans plusieurs zones de la banlieue nord d'Alep. Cité par le correspondant de Sanaa, l'agence de presse officielle syrienne, des sources locales ont dit que les forces d'occupation turques et leurs mercenaires terroristes avaient attaqué vendredi soir à l'artillerie de nombreuses zones dans la banlieue de Tal Rifat, dans la banlieue nord d'Alep. Les sources ont fait noter que les attaques avaient fait des dégâts dans des propriétés des habitants et dans les services publics dans la périphérie de la ville de Tal Rifat. On vous le disait en titre, portant sur la diminution des volumes de la production de pétrole, un nouvel accord a été trouvé le vendredi 10 avril par les pays membres de l'OPEP+, qui restera en vigueur jusqu'au 1er mars 2022, a fait savoir le ministre russe de l'énergie Alexandre Novak. Tout le monde a été d'accord sur le fait que des mesures décisives devraient être prises, notamment que les pays membres de l'OPEP et ceux qui ne font pas partie du groupe devaient réduire leur production de 10 millions de barils par jour pour un total de 2 mois, en mai et en juin, puis au cours du prochain semestre, et rétablir partiellement la production. La réduction sera alors de 8 millions de barils par jour. L'accord sera valable pendant 2 ans. Pour 2021, les paramètres fixés dans l'accord sont de 6 millions de barils par jour pour les 23 pays membres. Le quota sera valable jusqu'au 1er mai 2022, a-t-il déclaré. Le ministre a tout de même souligné que les volumes de la production pourraient être révisés si la situation sur le marché le demandait. Le nouvel accord réunit 23 pays, dont 10 sont membres de l'OPEP. L'Algérie, l'Angola, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, l'Irak, le Koweït, le Nigeria, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il y a également 10 pays dits non-OPEP, l'Azerbaïdjan, Bahreïn, le Brunei, le Kazakhstan, la Malaisie, le Mexique, Oman, la Russie, le Soudan du Sud. Finalement, 3 autres pays membres de l'organisation, l'Iran, la Libye et le Venezuela, sont toujours exemptés des réductions de production de pétrole en raison de problèmes politiques. Ouvrons maintenant la page de l'actualité africaine. 2313, c'est le nombre de personnes suspectées à Douala d'être atteintes du coronavirus. Et merci la France qui a envoyé ses biokamikazes à bord d'un vol d'Air France pour affecter le Cameroun. Les personnes suspectées, retenues au terme de l'évaluation effectuée par le système de gestion d'incidents du littoral, vont se faire tester dans les prochains jours. C'est ce qu'a déclaré le docteur Fanny Mahamat, directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. C'était le 9 avril 2020, au cours du traditionnel point de presse quotidien sur la situation de la pandémie, qu'il a déclaré. Pour freiner la propagation du coronavirus sur son territoire, le gouvernement camerounais a pris d'importantes mesures. Parmi ces mesures, le port du masque se généralise dans tous les espaces ouverts au public. Cette nouvelle mesure prend effet à compter du lundi 13 avril 2020. Lancé par le Premier ministre malien le 30 mars 2020, le Fonds spécial de riposte au nouveau coronavirus COVID-19 mobilise des soutiens de taille. Celui des financiers maliens est le dernier en date. Mercredi 8 avril 2020, lors d'une rencontre avec Bobo Cissé, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali a apporté une contribution de 670,5 millions FCFA à la campagne de solidarité contre le virus. Cet apport est le plus important enregistré depuis le lancement de ce fonds, dont le premier donateur est l'homme d'affaires mauritanien Tijani Ben Al-Hussein, patron de Star Oil Mali, avec une enveloppe de 100 millions FCFA. Lundi 6 avril, les représentants du secteur privé ont mis la main à la poche en le dotant d'une enveloppe de 500 millions FCFA. Depuis son lancement, plusieurs entreprises et personnalités du monde culturel et des affaires ont apporté leur participation à l'effort de mobilisation. On peut citer Vital Diop, le directeur général de la Société malienne de Paris Mutuel Urbain, avec un chèque de 100 millions FCFA, la filiale malienne du groupe UBA, 58 millions FCFA, Coris Bank, 20 millions FCFA ou l'artiste international malien Ibawan, 10 millions FCFA. Pays où l'économie repose en partie sur les transferts de fonds, le Mali ne pourra compter que très peu sur sa diaspora dans cette guerre contre un ennemi invisible, alors que depuis 2012, il fait face à une menace sécuritaire sans précédent. Et le président guinéen Alpha Condé a créé le vendredi 10 avril 2020 un organe consultatif dénommé Conseil scientifique de riposte contre la pandémie de la maladie à coronavirus, en abrégé CRS. Placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement et la tutelle technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le CRS réunit plusieurs experts nationaux de divers domaines. Il a pour but de formuler des recommandations pertinentes afin de renforcer l'efficacité de la riposte nationale contre la pandémie de COVID-19. Le Conseil scientifique assure la mission de veille, d'analyse et de conseil au gouvernement dans les domaines épidémiologiques, biologiques, cliniques, thérapeutiques, socio-anthropologiques, économiques et environnementales. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Guerre USA-Iran, l'ultime face à face. C'est le titre du commentaire politique. L'armée américaine cherche à contrer l'apparence d'un affaiblissement affirmé le 10 avril, la presse française, renvoyant en termes à peine voilés à la crise existentielle qui secoue, en ce moment même, l'un des principaux piliers de l'expansionnisme militaire US au Moyen-Orient et à travers le monde, à savoir la marine US. Mark Milley a dit au cours d'une téléconférence destinée aux forces américaines « J'espère que personne dans le monde ne croit que les capacités de l'armée américaine sont sérieusement affaiblies par la COVID-19. Ce n'est pas le cas. Nous sommes prêts, quelle que soit la menace. » Alors que l'USS Theodore Roosevelt vient de connaître l'une des premières des missions de masse de Marine US dans la foulée de l'affaire du capitaine Crozier, une affaire qui a fini par coûter sa place au chef de l'US Navy Thomas Smedley et que l'USS Nimitz risque instamment sous peu de revivre ce même processus de défection, les propos du général Milley ont du mal à convaincre. Pour de nombreux observateurs, la COVID-19 masque une crise encore plus profonde qui n'est pas sans rapport avec ce que les États-Unis d'Amérique vivent dans la région du Golfe Persique face à cette puissance émergente qui s'appelle l'axe de la résistance. Qu'un simple virus ait réussi à mettre hors service des bâtiments de guerre stratégiques dotés de systèmes d'armes de 88 000 tonnes, comme le sont l'USS Todd Roosevelt, CVN-71 ou encore le porte-avions US polyvalent de classe Nimitz, cela ne fait que prouver la vulnérabilité d'une marine US déjà portée au grand jour, non seulement pendant la guerre des pétroliers en été 2019, mais encore et de façon intermittente chaque fois qu'il y a un face-à-face USA-Iran dans le Golfe Persique. Il y a quelques jours, l'USS Patton, navire d'assaut amphibie US, s'est fait intercepter par la marine iranienne quand il s'apprêtait à traverser le détroit d'Ormuz. Évidemment, il n'y a pas eu de débarquement des commandos iraniens à bord du navire, comme dans le cas du pétrolier britannique Steno Impero. Mais on n'en était pas loin, surtout que des rangées entières de missiles côte-mer iraniens déployés depuis une semaine à Rejm meurent d'envie pour en découdre. Sur les images que les analystes militaires US, y compris le général Milley, auraient dû voir et revoir ces derniers jours, un aéroglisseur de type de tondard de la marine iranienne s'approche très lentement du gros bâtiment US qui compte à son actif l'invasion de 2003 de l'Irak, l'invasion de 2011 de la Libye. Ce que la vidéo ne montre pas très clairement, c'est que le hovercraft iranien est doté de deux missiles de croisière de type Nour, d'une portée de 120 km. C'est un tout petit engin de 6 mètres de long et de 36 cm de diamètre, dont le poids ne va pas au-delà de 750 kg. Certes, il est anti-blindé avec une vitesse de Mach 0,9 et une altitude de vol de 20 à 30 mètres par rapport à la surface de la mer, mais sa charge de 165 kg est de type hautement explosif, ayant un fusible à retardement. Or, ces mêmes caractéristiques qui auraient visiblement poussé l'USS Patton à traverser docilement le détroit d'Ormuz, façon d'éviter à ne pas avoir à voir sa cuirasse de fer être pulvérisée sous une salve de missiles Nour. L'officier US Scott Dayard le reconnaît d'ailleurs dans les colonnes de la revue The National Interest quand il dit ce 4 avril. La force asymétrique iranienne à travers le Moyen-Orient a constamment dépassé et dépasse toujours les efforts américains dans la région. Du Liban à l'Irak et à la Syrie, et s'étendant vers le sud jusqu'au Yémen, les partenaires de l'Iran consolident leurs acquis, souvent aux dépens et en dépit des efforts américains, tout en exerçant une influence sans précédent dans la région. En effet, les experts parlent maintenant des axes de la résistance liés à l'Iran et qui empiètent sur les frontières nord et sud d'Israël. La somme de ces dynamiques à travers le Moyen-Orient rend une chose très claire. L'armée américaine est dans un désavantage concurrentiel décisif dans ce domaine. L'aveu est trop cuisant, surtout qu'il vient d'un militaire ayant cumulé 3 expériences dans le Golfe Persique. Ce même auteur renvoyait il y a peu à une comparaison de A2AD irano-américain, estimant que la frappe au missile balistique de 8 janvier du corps des gardiens de la révolution islamique contre Ayn al-Assad en Irak avait posé en toute acuité une nécessité, celle d'un changement de mode de guerre américaine, basé au sol sur une présence multiple des bases de concentration de troupes et en mer sur une présence multiple des navires de guerre. Il y écrit « L'Iran a montré que la défense antimissile américaine fait défaut, d'où sans doute la décision de l'état-major US de déployer des batteries de missiles Patriot à Ayn al-Assad et à Erbil. Mais n'est-ce pas un peu décalé ? Au Yémen, les alliés aussi de l'Iran ont prouvé à plus d'une reprise que le système PAG ne répond pas comme il faut à sa mission, à savoir celle de contrer les missiles de croisière, les drones et les missiles de courte et de moyenne portée. En Israël non plus, le Dôme de Fer n'a jamais trop brillé par sa performance à endiguer des roquettes palestiniennes. Avant même que les batteries de missiles patriotes n'arrivent à Ain al-Assad et à Harir Arbil, une vidéo visiblement tournée par le CGRI ou encore ses alliés irakiens ont porté à la connaissance du monde entier les détails de l'ensemble des travaux de réaménagement de l'US Army dans ces deux bases. D'une redoutable précision, on y voit jusqu'à l'emplacement des hélicoptères, des F-35, des radars, des Patriotes. Et l'article d'ajouter. En langage militaire, cela veut dire que quelque chose a changé. Et ce quelque chose est notre primauté militaire sur l'adversaire. L'attaque aux missiles iraniennes du 8 janvier a lancé une vaste polémique, donnant surtout la voix à ceux qui croient qu'il est temps de changer notre vision du monde. La COVID-19 nous en fournit l'occasion. La réduction importante du nombre de bases militaires, la réduction de la taille des missions extraterritoriales de l'US Navy pourrait faire partie de ce refondement stratégique. Les Iraniens ont réussi à faire imposer un concept de guerre parfaitement nouveau qui nous oblige à changer de méthode. Ni nos batteries patriotes Etad en Arabie Saoudite, ni nos patriotes Ain al-Assad ne pourront faire revenir cette primauté. La guerre iranienne contre les États-Unis et leur domination au Moyen-Orient s'est démocratisée sur fond d'une stratégie asymétrique bien calculée et elle commence à apporter ses fruits, a-t-il conclu.